Désolé de vous annoncer que le cadeau n'est pas dans la boîte, parce qu'aucune boîte ne pourrait le contenir. Le cadeau existait avant la création du monde, et son âme avait soif de vouloir venir nous secourir. Le cadeau nous a vus, nous, humains, nous noyer dans nos égos. Du ciel, ses yeux sont devenus pleins d'eau. Le cadeau s'est fait petit, s'est revêtu d'humilité, a déposé sa couronne pour faire partie de l'humanité. Le cadeau est né dans la pauvreté, dans un contexte d'austérité, alors qu'il aurait pu tout illuminer et nous épater. Il a grandi et a été le cadeau parfait, sachant comment sa vie se terminerait. Il a valorisé ceux qui pensaient qu'il n'avait aucune valeur. Il a guéri les malades, a effacé les douleurs. Il a mis les femmes sur leur piédestal, a confronté les hommes méchants et détestables. Il a lavé les pieds des pauvres, a parlé au cœur des riches. Il a montré aux fraudeurs et aux autres pécheurs qu'il existe une autre piste. Il a accepté la plus grande des souffrances pour nous montrer que son amour est la plus grande des puissances. Il a tranché l'histoire en deux, en devenant le pain de vie pour que notre faim soit à jamais assouvie. Est-ce que des gens, au nom de Dieu, t'ont caché ce cadeau qui avait été enseveli par une poussière religieuse alors qu'il n'a jamais voulu nous imposer ce fardeau qui vient avec une foi malheureuse? Ce matin, je t'invite à ouvrir ton cœur à ce cadeau qui est une personne et qui est aussi la lumière du monde. Ce n'est pas un cadeau empoisonné, ni un cadeau de grec, et tu n'as pas d'argent à donner en échange. Et si toute ta vie, tu avais cherché le cadeau et qu'il était maintenant à portée de doigt, et que ce cadeau était dans la naissance de cet enfant roi, qui n'est pas seulement le petit Jésus de la crèche, mais aussi le grand Messie de la croix, qui veut te donner le cadeau le plus important, celui qui ne s'achète pas. Vas-tu accepter ce cadeau? N'aie pas peur de l'emballer. Il est à toi. Oui, il est à toi.
Est-ce qu'on peut remercier nos musiciens une dernière fois, s'il vous plaît? Merci, team. Est-ce qu'il y a des fans de sport dans la salle? J'ai vu 2-3 personnes regarder les matchs en cachette de la Coupe du Monde ce matin. Je ne vais pas les pointer. J'ai même des gens de notre église qui m'ont dit, je leur ai dit, est-ce qu'on se voit dimanche? Des Français qui m'ont dit, oh non, pasteur, malheureusement, c'est la Coupe du Monde. Je les comprends, sois béni. Désolé à ceux qui ont perdu. Ceux qui pensaient gagner, désolé à nos frères brésiliens, on est avec vous de tout cœur. Mais moi, j'aime le sport, j'aime suivre les carrières sportives, dont celle de Roger Federer. Hein, le connaissez, il a pris sa retraite dernièrement, un petit rite de passage pour lui. Et Roger Federer a malheureusement dû prendre sa retraite, mais il est allé dernièrement visiter ses collègues qui jouent encore au tournoi de Wimbledon. Roger Federer a battu des records, a gagné ce tournoi-là souvent, et il est allé voir ses collègues. Et puis lorsqu'il est arrivé sur place, il est dans une autre réalité maintenant, il ne joue plus. Puis il est arrivé, puis il a vu un agent de sécurité, puis il a dit bonjour. T'sais, il voulait juste rentrer chez Roger Federer, bonjour, il dit rien. La dame lui dit, avez-vous votre carte de membre? Il dit non, j'ai pas de carte de membre, je savais pas qu'il fallait une carte de membre. Avez-vous votre carte de membre? Ben, vous pouvez pas rentrer alors, monsieur. Là. Il dit, mais ben, c'est parce que d'habitude, je suis en train de jouer, madame. C'est juste que j'ai pas de carte de membre, je savais pas qu'il fallait une carte de membre. Il dit, mais il faut une carte de membre. Vous pouvez pas rentrer. Il dit, OK, vous êtes sûr? C'est parce que d'habitude, je joue. Puis en fait, non, il faut une carte de membre. Fait que là, l'humilité de Roger commence à prendre un coup, là, parce que il est comme, madame, c'est parce que j'ai gagné ce tournoi-là 8 fois, madame. Est-ce que je pourrais. Vous avez besoin d'une carte de membre pour rentrer, monsieur? On a tous déjà rencontré quelqu'un qui est ferme sur les règlements comme ça, hein? Fait que là, Roger Federer, le grand Roger Federer, retourne dans son auto. Son coach était dans l'auto avec lui, puis son coach dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on rentre pas? Parle-moi-en même pas! Ça a travaillé son humilité. Finalement, il ressort de l'auto, il reprend son courage. Il y a des fans qui arrivent. Roger Federer! Ils prennent un selfie avec lui. Son humilité lui fait du bien. Son orgueil, ça lui fait du bien à son orgueil. Il prend la photo avec les fans. Il est très content. Puis là, il y a un des organisateurs qui le voit, qui dit, Roger Federer, tu viens, on va aller aux premières loges. Mon Dieu, Monsieur Federer, venez. Il avait envie d'aller revoir l'agent de sécurité pour lui dire, hey, je suis là, Roger Federer. Il n'est pas allé le faire. C'était une leçon d'humilité pour Roger Federer. Mais vous savez, moi, je crois que la Noël, c'est justement la vraie leçon d'humilité. Elle est dans Noël, où ce que Jésus lui-même a fait le choix de baisser ses standards, de se revêtir d'humilité, comme je le disais dans mon texte, pour justement venir sur terre pour nous servir. Puis moi, une phrase que j'utilise souvent lorsque j'enseigne ici à Mosaïque, c'est qu'un texte hors de son contexte devient un prétexte. Et on va regarder l'histoire de Noël, bien sûr, mais j'aime bien me mettre dans le contexte aussi avant d'aller dans cette histoire-là. Parce que il y a le début de l'histoire, parce que nous, on connaît la naissance de Jésus, etc. Mais vraiment, au début du livre dans lequel cette histoire-là est écrite, il y a ces paroles suivantes de l'auteur Luc. Dans Luc 1, 1 à 4, ça va apparaître à l'écran. Voici ce que ça dit. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses, dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Il faut comprendre que Luc, qui a écrit ça, qui a écrit aussi une des versions de la naissance de Jésus, est un physicien. Donc Luc est un physicien et lui, il n'était pas nécessairement présent, n'a pas nécessairement assisté à la naissance de Jésus, mais il devait relater de plusieurs choses qui avaient pris place lorsque Jésus avait vécu. Donc lui, c'était un collègue de l'apôtre Paul qui est arrivé plusieurs années plus tard, mais Luc est un physicien. Donc moi, je ne connais pas de physicien dans la vie, s'il y a des physiciens dans la salle, bonjour, mais si je veux avoir une histoire, avoir la véracité de l'histoire, il y a des grandes chances que je choisisse un physicien. Elon Musk, dans son équipe, pour bâtir la fameuse Tesla, il y avait des physiciens. La NASA engage des physiciens. Donc, si tu veux qu'une histoire soit bien racontée, bien faire un bon travail de recherche, toujours pratique d'avoir un physicien dans sa famille. Et lorsque Luc parle, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, il s'adresse à Théophile. Et Théophile, c'est qui? Théophile, c'est la personne qui a financé, un peu l'éditeur, la personne qui a financé le livre dans lequel il est écrit l'histoire de la naissance de Jésus. Et l'emploi du terme « excellent Théophile », pas parce que Théophile était bon à l'école, pas nécessairement. Lorsqu'il dit « excellent Théophile », ça suppose que Théophile était une personne de rang élevé. C'est un homme qui était, pas rang élevé d'un point de vue, ce qui était plus important que les autres, mais c'était un homme qui était un académique, un homme qui a écrit des ouvrages, un intellectuel. Et ça me parle parce que le message de Noël, c'est pour tout le monde. Le message de Noël, c'est tant pour ceux qui ont étudié à l'université, mais c'est aussi pour ceux, on va le voir dans quelques instants, c'est aussi pour ceux qui sont de différents backgrounds, vraiment, même des gens comme Jessica qu'on a vu un peu plus tôt. Et Luc est allé à la recherche des faits. Il est allé voir des témoins oculaires. Bref, c'est un travail de recherche. Fait que c'est important lorsque... Moi, j'y crois beaucoup, parce que des fois, l'Église, des fois, on nous a dit, ben, faut croire, that's it. Non, moi, je ne crois pas à ça. C'est important, lorsqu'on lit quelque chose, de dire, ça vient d'où? Est-ce que c'est véridique? Est-ce qu'il y a un contexte? Qui l'a écrit? C'est qui cette personne-là? Vous me suivez encore? Parfait. On va lire justement la naissance de ce Jésus dans Luc 2, 1 à 4. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Comme eux avec Statistique Canada. Vous savez, ils nous demandent de faire un recensement des fois. Vous avez quel âge, vous habitez où? Tu sais, ces questions-là, ça nous... On se demande toujours pourquoi ils font ça, mais ça fait longtemps que ça existe, cette pratique. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius, si vous cherchez un nom pour votre enfant, ça peut être original, Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, le papa de Jésus, pas papa biologique, bref. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son premier-né, Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des autres. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. En bon québécois, ils ont eu la chienne. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Résumé rapidement ce qui prend place, c'est le recensement, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Marie est enceinte de Jésus et ils doivent aller dans la ville natale à Bethléem pour faire le recensement. Mais à ce moment-là, c'est là qu'elle accouche. C'est un événement important, on va en parler dans quelques instants. Et puis à ce moment-là, elle accouche bien sûr, mais dans la même région, il y a des bergers qui sont tout proches. Il y a un ange qui apparaît à ces bergers-là, qui leur dit... Voici ce qui arrive, il y a un gros événement qui arrive proche de chez vous, les boys. Il y a le Jésus va naître, le créateur de l'univers, le roi des rois va naître. Et eux, ils ont eu peur, mais ils se sont réjouis par la suite lorsqu'ils ont appris cette bonne nouvelle. Le cadeau n'est pas dans la boîte ce matin. Il est dans celui qui s'identifie à nos histoires. Il est dans celui qui a prédit son histoire et il est dans celui qui change les histoires. C'est mes trois points ce matin. Tout d'abord, il est dans celui qui s'identifie à nos histoires. Parce qu'il y aurait pu, le créateur de l'univers, naître dans un hôtel 10 étoiles. Il aurait pu réserver à l'avance, « Je veux la meilleure suite. Assurez-vous que mes parents vont bien dormir. » Moi, je me rappelle quand j'ai eu mes deux enfants, « J'ai pas bien dormi dans la chambre d'hôpital. » Il aurait pu tout arranger, toute manigancée de dire, « OK, mais je veux que mes parents aient une bonne confortable parce que ma mère, quand elle va mal été, je veux qu'elle soit bien. Je veux qu'on arrange ses cheveux pour Instagram, pour la photo officielle. » Il aurait pu tout arranger. Il était le créateur de l'univers, mais il l'a pas fait. Au lieu de cela, il naît dans une mangeoire. On a une image d'une mangeoire pour les oiseaux ou une mangeoire pour animal, mais c'était une grosse... Dans le contexte dans lequel il est né, c'était une grotte taillée dans la roche des parois. C'était plutôt un environnement sombre et sale, bien loin de ce que les Juifs imaginaient pour le futur sauveur, le futur Messie. Ça puait. Ça puait. Il y avait des odeurs, il y avait des animaux. C'était un contexte atroce pour que le roi des rois puisse naître. Mais il est intentionnel. Il veut s'identifier à ceux qui sont dans la pauvreté. Il veut s'identifier à ceux qui n'ont rien, ceux qui sont pauvres. L'événement le plus important de l'histoire, il veut non seulement s'identifier à ceux qui sont dans la pauvreté, mais aussi ce qu'il veut, il veut aussi s'identifier à ceux qui sont terre à terre comme des bergers. Et il est intentionnel parce qu'il sait que les bergers vont propager le message et il s'annonce à des bergers. Mais je m'identifie aussi parce que lorsque je vois cette histoire-là, je me dis, je comprends Jessica. Quand tu te dis, hey, mais si Dieu existe, pourquoi j'ai souffert? Pourquoi j'ai vécu telle chose? Est-ce qu'il s'identifie à moi? Pourquoi je suis dans le trou financièrement? Pourquoi il y a telle chose qui m'arrive? Oui, je peux comprendre. Mais le danger, c'est que lorsqu'on parle de Dieu, on dit, oui, mais si Dieu est bon, pourquoi il y a autant de mal? Pourquoi il m'arrive telle chose? Pourquoi il m'arrive telle souffrance? Mais Saint-Augustin repose la question différemment. Si Dieu n'existe pas, pourquoi y a-t-il autant de bien? Si Dieu n'existe pas, pourquoi y a-t-il autant de bien? Et les êtres humains, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a tendance à regarder ce qui ne va pas bien. On a tendance à regarder le mal. Ouais, mais il y a tellement de bien qui prend place sur terre. Surtout en cette période de Noël, il y a tellement de gens qui donnent, qui sont généreux. Puis oui, il y a des gens dans le besoin, je ne veux pas le nier, mais il y a tellement de gens qui donnent. On a regardé la vidéo, là, c'est extraordinaire. Il y a des témoignages qu'on a reçus des gens qui étaient comme « Wow, merci, ça fait tellement du bien ». Moi, je crois qu'il y a un créateur en nous qui a mis ça en nous, notre désir d'aider, de faire du bien aux gens qui sont autour de nous. Il y a un Peter Crift qui est un doctorant, un prof à l'université. Il a enseigné à l'université pendant 40 ans. Et il y a une maîtrise à l'université Fordham, un doctorat de la célèbre université de Yale. Bref, lui, il a fait ses 536. Et Peter Criff utilise une image très forte pour qu'on puisse des fois comprendre lorsque nous, on se dit, « Ouais, mais si Dieu existe, pourquoi il m'arrive telle chose? » Et il utilise l'image, même si c'est un grand intellectuel, il utilise une image très simple. On a tous été enfants. Puis on s'est fait un gros bobo. Ça faisait mal. Puis je me rappelle, je pense qu'on le fait plus nécessairement, mais il y en a qui le font encore, vous avez bien le droit. Mais moi, je me rappelle quand je m'étais blessé une fois, puis ça m'avait fait vraiment mal. J'avais une grosse plaie ouverte, puis j'étais « Maman! » Puis ma mère, elle arrivait bien tranquille. Regarde, elle en avait vu une couple de fois, c'est bien correct, tu vas y arriver, mon petit. Elle mettait de l'alcool à friction. Ouch! Quelle douleur! Maman, t'es tombée méchante! Je souffre! Mais c'était pour aider à ma guérison. En fait, les êtres humains, des fois, c'est qu'on, qu'est-ce qu'on fait avec Dieu? C'est qu'on le met toujours à notre niveau. Et oui, Dieu veut s'identifier à nous, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Mais est-ce que philosophiquement, est-ce qu'on peut des fois changer nos paramètres de dire, on ne comprend pas toujours pourquoi ça nous arrive certaines choses? On ne comprend pas, on n'a pas toujours les réponses à ce qui arrive dans le monde, les souffrances ou ce qui nous arrive à nous. Mais si on avait cette vision que Dieu est ce parent, qu'on ne comprend pas toujours, que oui, il y aura des souffrances. Puis je vais vous le dire en toute honnêteté, même en tant que pasteur, des fois, il arrive des choses, puis je n'ai pas la réponse. Je suis dans mon bureau avec telle personne qui me dit, pourquoi ça m'arrive ça? Je n'ai pas toujours la réponse. Mais oui, des fois, on veut des réponses, mais est-ce qu'on oublie que le plus important, c'est la bonne nouvelle? C'est qu'il y a un Dieu qui existe, puis qui nous aime, puis qui veut notre bien, puis qu'il nous a annoncé la bonne nouvelle parce qu'il est un sauveur. Puis c'est, cette bonne nouvelle-là, elle n'était pas juste pour les Juifs, parce que Luc, dont on a parlé un peu plus tôt, il n'est pas un Juif lui non plus. Mais c'était pour nous dire à quel point c'est pour tout le monde. Regardez autour de la salle. Il y a des personnes de différents arrière-plans, différentes couleurs, puis c'est ça qui est beau. Mais ce que j'aime, c'est qu'il s'identifie à chacun d'entre nous. T'as la misère à y arriver financièrement. Ça te stresse l'inflation, t'as la misère, tu cherches une job, tu rushes financièrement. Lui, il s'identifie, il vient d'un milieu modeste. Tu souffres physiquement, émotionnellement. Tu souffres, tu vis une souffrance, tu as vécu des choses, tu souffres. Il s'identifie à toi, il a souffert à la croix. Tu as des peurs, de l'anxiété, ou tu as vécu des peurs dans ta vie, puis ça t'accable, ça te retient, ça t'empêche d'avancer. Il peut s'identifier à toi. Il a souffert avant d'aller à la croix dans le jardin de Gethsémané, où il était comme, « Oh mon Dieu, comment je vais faire pour y arriver? » Il s'identifie à toi. Il s'identifie à nos faiblesses, à nos erreurs, parce que lui, il n'a jamais péché. Il peut s'identifier à nos faiblesses, à nos erreurs, puis nous aider à justement à traverser à travers la vie. Puis deuxièmement, il est celui qui a prédit son histoire. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte à Noël, regarder des bons films de Noël? Oui, hein? Cocooning, Netflix, regarder des films de Noël. Ah, c'est bon. Moi, le film de Noël que je vais regarder cette année, c'est Retour vers le futur. Un classique, hein? Il y en a des fans, hein? Oh yes! Ceux qui ont le même âge que moi ou les autres, mais tout le monde connaît Retour vers le futur. Un classique, si tu ne connais pas Retour vers le futur, bienvenue dans le monde. Écoute ça dans le temps des fêtes, c'est un film vraiment important, important pour ta culture cinématographique. Mais qu'est-ce qui nous parlait de ce film-là? C'est que Marty McFly avait la capacité de retourner, que ce soit dans le passé ou dans le futur. J'aimerais tellement, moi, Emmanuel Hippolyte, des fois retourner dans le passé pour... Tu sais, des fois, j'ai dit une parole à ma femme, je l'ai blessée, j'ai fait quelque chose, juste retourner en arrière pour regagner ma cause. C'est pas le seul, hein, les boys? Ça venait chercher notre imaginaire, ce film-là. Et tout le monde aimerait ça, justement, prédire son futur, savoir ce qui va nous arriver dans la vie, comment éviter telle situation ou comment mettre les situations à notre avantage. Mais Jésus, lui, il a prédit son futur. Dans Michée 5, 1 à 12, okay, c'est dans l'Ancien Testament, des centaines d'années avant, sa naissance était prédite, il avait prédit son lieu de naissance. Dieu avait prédit que Jésus allait naître à Bethléem. Voici ce que ça dit. « Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. » Et ça, c'est seulement une des 61 prophéties qui étaient dans l'Ancien Testament qui annonce ce qui est arrivé dans le Nouveau Testament. 61 prophéties, 61 fois Dieu a dit, voici ce qui va arriver, et c'est arrivé concernant la naissance de Jésus, concernant sa vie, concernant sa mort, mais surtout le plus important, concernant sa résurrection. Je ne sais pas pour vous, mais si tu connais quelqu'un qui est ressuscité, accroche-toi à cette personne. Moi, je n'en connais pas. Si tu connais une personne qui est morte et qui est revenue à la vie, écoute ce que cette personne-là dit. Il y a des gens, OK, qui ont consacré leur vie à prouver que le christianisme n'existe pas, à prouver que Dieu n'existe pas. Mais il y a aussi plusieurs personnes qui ont consacré leur vie à prouver que le christianisme est crédible d'un point de vue historique, scientifique, philosophique, qui ont consacré leur vie à cela. Est-ce qu'il y en a qui sont allés au cégep ou qui sont au cégep présentement? Levez la main. Si vous avez pas, moi, je n'ai pas fait le cégep, en toute honnêteté. C'est correct, hein? Je ne critique pas ceux qui sont au cégep et qui sont passés par là. Ceux qui sont allés au cégep ou qui ont fait l'université, peut-être, vous avez peut-être entendu parler, ou même ceux qui n'ont qui ont pas passé par ce parcours-là, vous avez sûrement peut-être entendu parler de Tacite, Joseph et Homère. Okay? Ça, c'est trois personnages historiques assez importants. Et ceux qui ne se rappellent pas de eux, peut-être que vous consommiez quelque chose au cégep. Puis, en tout cas, tout est pardonné, on oublie ça. C'est correct, je ne le dirai pas à vos parents. C'est bon. Tacite, Joseph et Homère sont des personnages importants de l'histoire où ce que on relate souvent leurs écrits et personne ne va contester ce qu'eux ont dit, Tacite, Joseph et Homère. Il faut bien comprendre que tous les textes qu'ils ont écrits, ce n'est pas les textes originaux, les textes de Tacite, Joseph et Homère. Okay? Tous leurs textes qu'ils ont écrits, ce sont des manuscrits. Donc, les textes originaux ont été pris, ont été retranscrits, ils ont été pris, ils ont été retranscrits. Et, dans le fond, aujourd'hui, il n'existe plus de textes originaux. Il existe seulement des manuscrits de ce qu'ont écrit Tacite, Joseph et Homère. Et Homère, on ne parle pas d'Homer Simpson, pour ceux qui sont en train de poser la question. L'œuvre de Tacite, aujourd'hui, il existe seulement un manuscrit. L'œuvre de Joseph, dont ses œuvres qui parlent de la guerre des Juifs, datant du 5e, 6e siècle, 9 manuscrits. Homère, 690 manuscrits. On fait un encan ce matin. Le Nouveau Testament, vous pensez qu'il y a combien de manuscrits là? Il y a peut-être un prix à gagner, donc essayez-vous. Là. On fait un encan ce matin. Combien de manuscrits du Nouveau Testament? 25, parfait. 1000, intéressant. OK, il y en a qui disent 5000, quoi d'autre? Est-ce qu'il y en a qui disent moins? 5000, c'est peut-être un peu élevé, non? Il y en a qui disent moins? 2000, OK, parfait, c'est bon, intéressant. Félicitations, mon ami! 5000! 1? Prenez en note ce que je dis, là. 1, 9, 690, 5000. Vous savez, si Céline Dion fait un spectacle, OK? Puis dans 2000 ans, il y a une personne qui a recopié le fait qu'il a fait une critique du spectacle de Céline Dion, c'est correct. Mais s'il y a 5000 personnes qui ont relaté que le spectacle de Céline Dion a eu lieu, c'est assez important, non? Et vous savez, la réalité, puis c'est dommage, c'est que l'Église ou la société ne nous a pas prouvé que le christianisme était à ce point crédible encore aujourd'hui, d'un point de vue intellectuel. Puis on a perdu cette notion-là. Fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on repousse Dieu parce qu'on se dit que c'est juste des bondieuseries. Là, vous dites, ouais, mais 61 prophéties, Emmanuel, est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que c'est... Ouais, mais c'est un peu poussé, là, revenant à ton affaire de prophétie, j'ai stické là-dessus, mais vous savez que... Juste une petite anecdote, OK? Si 61 prophéties, vous dites que c'est beaucoup, puis vous avez le droit, OK? Mais il y a une université aux États-Unis, le Christian Victory Publishing Company, qui dit que si tu es capable de nous prouver, trouver une personne à travers l'histoire qui pourrait accomplir environ... peut-être 5-6 prophéties, ils étaient prêts à te donner 1000 $. Pour te dire à quel point, non, on y croit que ce Jésus-là, il a été capable d'accomplir ses 61 prophéties et que ce n'était pas un hasard. Bref, nous là, on croit que c'était un plan divin. On croit qu'il y a un Dieu qui était derrière tout ça. On croit que ce n'est pas des bondieuseries. On croit que c'est crédible. Donc si c'est crédible à la tête, est-ce qu'on ne doit pas considérer que ça peut descendre à notre cœur? Si c'est crédible à la tête, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est... Regarde, il y a peut-être quelque chose de vrai. Si c'est vrai tout ça, le point de vue intellectuel, est-ce que c'est vrai qu'il serait aussi ressuscité? Là, tu dis, ouais, mais Emmanuel, si c'était vraiment vrai, tout le monde le saurait. Ah oui! On a passé à travers une petite pandémie, hein? Nombre d'articles que vous avez lus ou ce qu'on se dit, ou que finalement tu faisais une recherche puis tu découvrais, c'est n'importe quoi cette affaire-là! Qui faisait vraiment les recherches pour le lire? Tu le partageais, mais tu ne lisais pas vraiment la source. Et moi, je vous défie, même après avoir entendu le message de ce matin, d'aller à la recherche pour savoir est-ce que c'est vrai, de faire vraiment vos recherches. Ça vaut vraiment, vraiment la peine d'écouter celui qui a prédit son histoire. Et troisièmement, il est celui qui change les histoires. Qu'est-ce qui est arrivé, hein, avec les bergers? Quand ils ont vu l'ange, je ne sais pas si vous avez déjà vu un ange, mais si je vois un ange, moi, ça peut changer ma vie. Si je vois un ange, ça peut changer ma vie. Et donc, quand, lorsqu'ils ont rencontré ces anges-là, ils ont pu louer Dieu, ça a changé leur vie. Il y a eu un avant et un après Jésus. Il y a eu un avant et un après cette annonce, cette bonne nouvelle. Puis je te comprends, Mélanie. Je te comprends, Mélanie, quand tu dis, « Ouais, mais moi, croire à tout ça, là, croire à Dieu, non, mais d'un côté, je trace une limite. » Mais en même temps, il y a quelque chose dans notre cœur qui dit, « Ouais, mais j'aimerais ça revoir ma mère. J'aimerais ça qu'il y ait une possibilité d'avoir une vie après la mort. » Il y a quelque chose en nous qui est comme, qui a ce désir-là de voir que ce Dieu-là peut changer nos histoires. Mais est-ce qu'on peut avouer que Noël un peu s'est rendu un peu absurde? Faites l'exercice cette année, OK? Dans votre famille, on va se donner des cadeaux, on va fêter, mais jamais, moi je le fais toujours dans ma famille, peut-être que c'est une déformation professionnelle parce que je suis pasteur, ça me chicote un peu qu'on fête Noël à ce point-là, mais on ne parle jamais de Jésus, jamais, on a oublié. Puis c'est correct, il y en a qui ne veulent pas que ce soit une fête religieuse, mais je respecte ça, mais c'est un peu particulier quand même. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste canceller Noël, plus avoir de Noël? Il y en a qui sont tristes, il y en a qui me disent, tais-toi, on ne veut pas, je veux continuer d'avoir des cadeaux. Mais c'est un peu absurde, mais je vous pose cette question-là. Est-ce qu'on a besoin de Noël? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un sauveur, mais qu'on ne veut pas l'admettre? John Piper, le théologien John Piper, dit, « Si vous n'avez pas besoin d'un sauveur, vous n'avez pas besoin de Noël. Si vous n'avez pas besoin d'un sauveur, vous n'avez pas besoin de Noël. » On revient à ce que j'ai dit plus tôt, là. Intellectuellement, scientifiquement, historiquement, le christianisme est crédible. Luc qui a écrit ça est un physicien, c'est sérieux. Le message, il est à notre tête, il descend à notre cœur. Mais est-ce que dans nos sociétés, on n'est pas devenu tellement autosuffisant qu'on oublie qu'on a tous besoin d'un sauveur? Chacun dans notre vie, là, à un moment donné où on s'est retrouvé, on a eu des défis, des moments difficiles. On ne réalise pas qu'on avait tous besoin de ce sauveur-là, d'aide. J'aime cette citation d'un homme politique important qui a dit, « Il n'en est pas de même du Christ. Tout en lui m'étonne. Son esprit me dépasse. » Et sa volonté me confond. Entre lui et quoi que ce soit au monde, il n'y a pas de terme possible de comparaison. Il est vraiment un être à part. Ses idées et ses sentiments, la vérité qu'il annonce, sa manière de convaincre ne s'expliquent ni par l'organisation humaine, ni par la nature des choses. Sa naissance et l'histoire de sa vie, la profondeur de son dogme qui atteint vraiment la cime des difficultés, et qui en est la plus admirable solution. Son évangile, la singularité de cet être mystérieux, son apparition, son empire, sa marche à travers les siècles et les royaumes, tout est pour moi un prodige. Napoléon Bonaparte, un des plus grands leaders qui parle de Jésus, le plus grand des leaders. Moi, je pense qu'il change nos histoires. Il a changé la mienne, il a changé l'histoire de plusieurs personnes qui sont dans cette salle. Puis en terminant, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme de notre église, Marceline Nolin, qui racontait son témoignage dans un livre qu'elle a écrit justement. Voici ce qu'elle dit lorsqu'elle raconte son histoire. À 16 ans, j'étais loin de me douter que mon entrée au cégep allait prendre une tournure si marquante dans ma vie. Vous voyez, le cégep, c'est important. Au moment de l'accueil, nous étions une centaine d'élèves dans un local pour entendre un mot de bienvenue. À ce moment, mon regard s'est arrêté sur trois d'entre eux. Ils attiraient particulièrement mon attention, sans savoir pourquoi. Ils avaient définitivement quelque chose de différent, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. J'étais absorbé, je n'arrivais pas à détourner le regard. Ils étaient pourtant tout de même discrets parmi tous les autres. Une chose était certaine, j'avais réellement envie de m'approcher d'eux. Je ne peux vous dire comment, mais ils sont devenus mes nouveaux amis. Je me suis tout de suite senti bien. Toutefois, je me suis rendu compte quelques semaines plus tard que ces nouveaux amis avec qui je m'entendais si bien croyaient tous en Jésus et fréquentaient l'église régulièrement, même très régulièrement. Quel choc! Ceci a engendré plusieurs discussions, toutes plus délicates les unes que les autres. Avec un de mes amis, ces discussions étaient plus fréquentes, mais je ne voulais rien entendre. Je tenais à mes opinions et ne cédais en rien à toutes ces explications et arguments pour me prouver que Dieu existait réellement. Un jour, il m'a dit, « Ben, mets-le au défi, tu vas voir. » Et cette parole m'a beaucoup marqué. Je suis venu à me demander s'ils étaient dans le champ ou si c'était moi. Nous ne pouvions tout de même pas tous avoir raison. Pendant 3 ans, J'ai cherché si Dieu existait en le mettant au défi à maintes et maintes fois pour toutes sortes de situations dans ma vie. Ce même ami m'a dit, plus de 3 ans après notre première rencontre, « Tu crois en Dieu, tu le sais qu'il existe, mais tu ne veux pas l'avouer. » Parce que si tu le dis, ça implique quelque chose. Ce quelque chose désignait un changement dans ma vie, de l'implication envers Dieu. Exactement. Je suis super heureuse, j'ai aucunement le goût d'aller à l'église, encore moins de lire la Bible. J'aime ça aller dans les bars et je me fous bien de ce que les gens sacrent autour de moi. Je ne vois vraiment pas pourquoi je changerais, disait Marceline. Ainsi, j'étais consciente que Dieu existait et je me tournais encore vers lui dans l'intimité de ma chambre lorsque j'en avais besoin. Plus je le laissais agir dans ma vie, plus ma vie allait comme je le voulais, au plus profond de moi. Par contre, l'image de la structure aseptisée, plate, rigide, traditionnelle et contrôlante de la religion avec un grand R que j'imaginais lorsque je ne croyais pas en Dieu était encore bien présente dans ma tête, même si je savais qu'il était bien réel. J'avais pourtant des amis avec lesquels je m'entendais bien et qui se plaisaient vraiment à aller à l'église. Ils m'invitaient de façon régulière à y aller avec eux, mais ça ne m'intéressait vraiment pas. Dieu est alors venu me chercher autrement. Une occasion s'est présentée où une de mes amies m'a invité à un spectacle de chant qu'elle faisait. J'y suis allé car je la trouvais très bonne et à ce moment-là, j'ai pu découvrir quelque chose que je ne comprenais pas vraiment. Des dizaines de jeunes réunis dans un endroit qu'ils appelaient « église » et qui parlaient tous de Jésus haut et fort. J'étais incapable de concevoir qu'autant de jeunes différents styles étaient à cet endroit pour parler de Dieu un vendredi soir. Après 3 ans à jouer au yo-yo avec ma foi et à utiliser Dieu à mes fins, j'ai compris que je ne pouvais pas faire cela toute ma vie. Je lui ai lancé un défi ultime. « OK, si tu règles ça et ça dans ma vie, c'est beau, je me consacrerai à toi, Dieu. » Ce qu'il a réalisé en moins de 2 jours. Des problèmes que j'essayais de régler depuis plus d'un an pour certains, il les a réglés. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'admettre qu'il existait vraiment, que je le veuille ou non. Au début de mon cheminement spirituel, je me disais, c'est du hasard. Il faut dire que ça pouvait très bien être ça. Ensuite, plus j'ai pris Dieu au sérieux dans ma vie, plus ce que j'ai découvert était profond. J'ai grandi dans un milieu favorisé, entouré de personnes aimantes. Rien ne me manquait. Du moins, c'est ce que je croyais. Semblerait-il que ce n'est pas parce qu'on pense n'avoir besoin de rien que c'est réellement le cas. Quand on n'a pas quelque chose, on ne sait pas ce que l'on manque. Aujourd'hui, Marceline est non seulement une chrétienne engagée, une maman engagée, mais c'est aussi une membre de notre conseil d'administration. Elle n'a aucun background chrétien. Elle a rencontré ces chrétiens-là au cégep. Et aujourd'hui, elle est une bénédiction pour notre église. Vous voyez notre super décor? C'est elle qui est derrière la confection de ces décors-là. En fait, c'est que Marceline, et comme plusieurs chrétiens, elle n'a pas figé Jésus dans le décor de la crèche. Elle n'a pas figé Jésus dans le décor de la crèche. Elle a accepté qu'il y avait... Oui, il y a le petit Jésus de la crèche, mais il y a aussi le grand Jésus de la croix. Et moi, je veux vous lancer ce défi en terminant. De faire comme Marceline a fait. Vous êtes là aujourd'hui, vous allez vaquer à vos occupations, mais dans le temps des fêtes, vous allez avoir peut-être un peu plus de temps. De juste fermer votre porte dans votre chambre et de lui parler. Lui dire, Dieu, est-ce que tu existes vraiment? Est-ce que tu as un plan pour ma vie? Est-ce que c'est vrai ce que le pasteur disait ce matin? Je te lance seulement ce défi. Puis au pire, tu auras parlé seul durant l'année. T'as rien à perdre. Et moi, je l'ai fait il y a plusieurs années, ça a changé ma vie. J'ai dû faire, moi, contrairement à Marceline, moi j'ai grandi dans l'église, mais j'ai dû refaire mon cheminement spirituel moi-même. Mais si tu vois que ça te trotte encore, reviens nous voir. Reviens à Pâques, c'est une belle occasion de venir à l'église. Mais ne le limite pas seulement à la crèche, parce qu'il est le Jésus de la croix. Et si le Jésus de la croix existe, qui est mort, qui est ressuscité, ça peut avoir un impact sur ta vie, sur terre, mais aussi sur ta vie, dans l'éternité. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant, juste avant de chanter ce dernier chant. J'aimerais juste prier avec vous. Seigneur Jésus, juste fermer nos yeux, si on peut juste fermer nos yeux ensemble. Seigneur Jésus, tu vois ce message qu'on a entendu, que le cadeau n'est pas dans la boîte, il est en toi, Seigneur. Je te prie que tu puisses nous donner cette humilité de venir à toi, de faire comme Marceline puis de dire, est-ce que tu existes vraiment? De demander, d'avoir le courage intellectuel et spirituel de juste te demander si tu existes vraiment. Seigneur, je te prie que tu parles au cœur de ceux que le message de ce matin, il résonne, qu'il y a toutes sortes de doutes qui viennent dans leur tête. Mais toi, Jésus, on le sait que tu le fais. Tu es venu sur terre pour parler à nos cœurs. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter ce dernier chant en terminant ensemble. Puis vous êtes libre à vous de pouvoir chanter à Dieu. Si vous venez à Mosaïque semaine après semaine, chantez de tout votre cœur ce roi, ce Jésus qui est né. Mais si vous venez pour la première fois, vous êtes en visite, vous avez le droit de le chanter avec nous.